Ça s'appelle Get Back. C'est disponible depuis aujourd'hui. Ça débute ce soir, en fait, sur Disney+. On accueille Sylvain Ménard pour
mes hommages.
Salut Sylvain.
Sylvain.
Catherine l'a vu.
Oui.
MC l'a vu.
Oh oui.
Et j'ai vu.
Parfait. Sylvain l'a vu. Comment t'as trouvé ça?
C'est intéressant. Et c'est sûr que c'est le grand salut, c'est le dernier morceau de la grande œuvre, de la grande fresque des Beatles, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au fond de la voûte, Let It Be ayant été le dernier projet des Beatles de leur vivant, si on peut s'exprimer ainsi. Là, on remonte dans la genèse, on a refait Sgt. Pepper's, on a refait l'album blanc Abbey Road, et là, bang, Let It Be, ça devient Get Back, qui était le titre original du projet Let It Be. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Oui, c'est sûr que ça vaut la peine, surtout que c'est un événement majeur. Est-ce que... Ben, on en fait un événement majeur. Toutes les affaires que l'on fait des Beatles, vous remarquerez que c'est pas ordinaire. Mm. D'ailleurs, là, de faire une série documentaire de 468 minutes répartie sur 3 épisodes, c'est quand même
basé
pas rien.
Basé sur 60 heures de contenu, tourné en film.
Mais je veux juste réitérer qu'au départ, ça devait être un film de 2h30 au cinéma. Mm-hmm. Et finalement, Peter Jackson, en regardant ce qu'on appelle les rushs, donc le pilotage, a dit c'est impossible de faire un film de 2h30. Donc, c'est devenu c'est trois ça. Parties de 2 heures. Ce qui fait que c'est quand même très, très long.
Et en partant, son choix éditorial, lui, c'était d'y aller jour par jour. Ah, c'est un projet qui dure plus qu'une vingtaine de journées. Parce qu'à l'origine, le projet de Let It Be, c'était quoi? C'était de faire un spécial télévisé, d'entendre les Beatles jouer en direct à la télé. Dans un endroit, on n'a jamais trop su où. D'ailleurs, dans le film, c'est ça qui est évident, dans le documentaire, c'est que c'est le chaos complet. Cette idée-là, à la base, de remettre les Beatles devant un public, déjà, elle faisait pas l'unanimité à l'intérieur des quatre. Donc, imagine, là, ils se retrouvent dans un studio de cinéma qui s'adonne à être libre à ce moment-là parce que c'est un studio qui appartient à quelqu'un de l'entourage des Beatles.
Mais les circonstances du tournage, le rappelle-nous, c'était quoi?
Bien, l'idée, c'était ça. C'est que les Beatles, en 68, ont fait un film pour Hey Jude. Ils ont bien aimé ça, de jouer devant du monde, puis ils se sont dit, ah, pourquoi pas, on pourrait faire un événement spécial à la télé et rejouer, comme on le faisait dans le bon vieux temps, il y a 2 ans. Parce que leur dernier spectacle remontait au mois d'août 66. Donc, comme on le faisait dans le bon vieux temps, on va rejouer devant le monde. Sauf qu'en même temps, très rapidement, on ne s'entend pas sur aucune idée. Mais c'est qu'il n'y a jamais d'idée directrice sur qu'est-ce que va être le fameux spécial télé. Il faut se rappeler qu'en 68, Elvis avait eu son spécial à NBC qui avait été fantastique. Les Beatles se disaient, ah, il y a peut-être de quoi faire devant le public comme ça, à atmosphère contrôlée, sans voir un paquet de monde qui nous crée après. Mais très rapidement, t'en as dans le groupe, notamment George Harrison, qui dit c'est parce que ce qu'on fait en studio, on n'est pas capable de le reproduire sur scène et de montrer aux gens à quel point on est bon en studio et pas nécessairement compétent sur scène, moi, ça me tente pas. Mm. Puis il n'y a pas tort, parce que quand on les écoute, on écoutait le jam d'intro tantôt, là, ben c'est un groupe qui jam. Et aussi, l'objectif qui s'était donné, c'était de monter 14 chansons en 14 jours pour en arriver à l'apothéose, à aller les jouer devant le monde. Ce qui, dans un milieu normal et équilibré, ça n'a pas de maudit
c'est impossible.
Bon sens.
Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on voit, c'est leur dynamique entre eux, parce qu'on voit que Paul McCartney dirige, run tout le monde un peu par le bout du nez, ce qui irrite aussi George Harrison, qui finit par quitter, parce qu'on voit quand même un conflit majeur chez les Beatles.
Ben, mais on le voyait plus, le conflit, dans l'édition originale de Let It Be, le film de 1970, qui, lui, durait, en passant, 80 minutes. Mm. Donc, il n'y a pas de commune mesure avec ce que Peter Jackson vient de faire. Michael Lindsay-Hogg, le premier réalisateur du projet Let It Be, lui, il s'était fait appeler pour réaliser un concert en direct, puis finalement, il devient documentariste d'un groupe qui se chicane un petit peu en studio, puis il sait pas trop quoi faire avec ça. D'ailleurs, c'est ce que je mettais dans mes notes. Michael Lindsay-Hogg a eu droit à une carte grise alors que Peter Jackson lui arrive, il a carte blanche, il peut faire la série de la longueur qu'il veut en s'attardant sur des points que l'autre n'a pas vus. Ils n'ont pas eu la même commande et pas eu la même déception non plus, clairement.
Mais ce qui est important à dire aux gens, là, parce que j'écoutais les critiques et je lisais les critiques un peu partout, c'est que c'est pour public averti. Parce qu'il faut que tu sois, toi, t'es vraiment un geek. Moi, je suis un grand fan des Beatles. Ouais.
Moi aussi, mais différemment de vous.
C'est ça, mais c'est lourd, là. Je veux dire, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire un film intéressant pour le grand public d'une heure ou d'une heure et demie et de garder les 5 heures autres qui sont vraiment des détails? Tu sais, on voit Yoko Ono faire du tricot puis George Harrison jaser.
Oui et non. Pour une raison qui est bien simple. Tout ce qui porte le sceau des Beatles maintenant, ça doit être gros. Mm. Donc, il faut que tu arrives avec un événement comme un documentaire de, sur trois
mais on
plages.
S'entend que le commun des mortels va partir ça, là. Puis après une heure, il va dire « j'abandonne, c'est trop lourd ».
Surtout le premier deux heures, oui, je trouve ça. Qu'il est plus rébarbatif que le reste, parce qu'au deuxième, là, on voit d'autres choses, ça bouge, il change de studio. Mmh. Au moins, il se passe de
on
quoi.
On part que le plus plate, imagine.
Ouais.
Mais moi, le mythe populaire, c'est que les Beatles étaient dans une séance de déchirement
pas
interne.
Pas du tout.
Non, mais le mythe, c'était ça. Ouais. Et ça démontre le mythe, ce document.
Ouais. Et ça vient démonter le mythe, en effet. Mais ce que ça nous montre, par exemple, c'est que la chicane qui était censée être terrible dans l'été de vie entre George Harrison et Paul McCartney...
C'est pas grand-chose.
Ben, quand on regarde ça dans le documentaire de Peter Jackson, c'est un désaccord entre deux musiciens.
C'est quatre gars à bout fatigués.
Bon, sauf fatigués.
Qui ont une famille à cette
heure. George Harrison... Il est quand même parti plusieurs jours.
Oui, oui. Non, mais c'est après ouais. ça. Quand George Harrison voit que ce projet-là mène à rien... Il se dit, je vais aller prendre une couple de jours. Il va se cacher chez sa mère à Liverpool, ce qui est très signifiant.
On ne sait pas trop s'il va revenir.
Oui, ils ne savent pas trop s'il va revenir. Sauf qu'en même temps, d'ailleurs, John Lennon dit à un moment donné, bon, faut voir appeler Eric Clapton qui prendra sa place.
Il n'y a pas de stress.
T'sais, non, mais il y a quelque chose d'un peu surréel dans tout ça.
Mais comme Patrick dit, Sylvain, ce qui est intéressant, c'est Yoko Ono, qui est la grande destructrice du groupe. Non, elle ne dit pas un traître mot. Par contre, comme elle est toujours à côté de son chum, puis elle est gossante, fait que tu comprends pourquoi ça a été un irritant.
Ce que j'ai compris de Yoko Ono puis de sa présence dans ça, c'est comme des gars qui vont en voyage de pêche, puis il y en a un qui amène sa blonde.
Exactement ça. Elle dit « Je vous nuirai pas, mais juste sa présence fait que personne n'est naturel. »
Et puis à un moment donné, pendant le voyage de pêche, il y a Paul McCartney, qui est le chum de John, qui fait venir sa blonde aussi, elle dit « Ben, viens prendre des photos. »
Et
à un moment, puis il y a un moment donné, il y a un paquet de monde qui se retrouve dans le studio. Ouais.
Des Krishna qui sont amis avec George Harrison, qui sont assis dans le coin, puis ils jouent « Kikling, kikling! »
Non, mais ils font rien.
Sérieusement, c'est adhérable.
Les techniciens, alors que le vrai chef celui qui menait les opérations jusque-là, George Martin, on le voit se promener, il est un petit peu dans le fond. D'ailleurs, il n'aime pas le projet. À la fin, quand Paul McCartney dit « Au moins, on a un album », puis George Martin qui dit « Oh no, you don't have an album here ». Il y a ça aussi, mais c'est ce que j'ai remarqué surtout là-dedans, c'était le grand chaos. C'est le chaos perpétuel.
Mais un chaos lent. Sans farce. Ben, c'est pas une chicane ouverte.
Non.
Et tu comprends, mettons, la force tranquille, ils le disent tous, qui est Ringo. Moi, c'est mon préféré. C'est le préféré de la majorité des fans des Beatles. Il dit jamais rien, mais lui, il fait pas de trouble. Il est assis à sa batterie, puis là, il le regarde, puis il commence une chanson. Tu joues-tu, Ringo? Oui. Il joue cling, cling.
Il est bon.
Exact. Puis tout le monde se parle. Une chance que Ringo est là.
Il dit
parce
jamais
que lui,
un mot. Hein.
Non,
jamais.
Mais il est pas fâché. Il est pas content.
Il est là.
Donc, tu comprends ça. C'est juste qu'il faut comprendre que c'est un long fleuve tranquille.
Mais Sylvain, ce qui retient l'attention là-dedans, c'est pas la qualité du documentaire, c'est le fait que il y avait un mythe autour de ces bandes-là.
Bien, effectivement, mais c'est parce qu'on a toujours dit que c'était la chronique d'un déchirement, mais là, il y a 50 ans de pondération. On a le temps de tout. Tu sais, dans le temps, il y avait la chicane qui était dans le groupe, il ne s'entendait pas sur les options d'affaires, tout ça. Là, maintenant, tu as les deux successions, Paul McCartney, Ringo, tout le monde s'entend. Giles Martin, le fils de George qui avait quitté la production, bien, Giles refait les bandes. Tu sais, le monde est beau, le monde est fin, le monde a vieilli et surtout a maturé. Et surtout, le monde est prêt à passer le râteau une dernière fois aussi.
Non, mais il faut le dire, là, il y a ça aussi. Oui. C'est très payant de faire ça. Et aussi... Tu vois les 12 travaux d'Astérix, ça a pris pour voir ça pour nous autres?
Non, mais est-ce qu'il y a une revision, est-ce qu'il y a du révisionnisme là-dedans? Sûrement. Ouais. On en fait tous dans nos vies.
Ouais.
Donc, c'est sûr que l'entité morale qui est un groupe va faire aussi du révisionnisme pour dire « Wow, 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 c'était pas si pire que ça. » Mais dans le temps... Il n'y avait comme pas le choix. Puis les Beatles étaient des figures controversées dans le temps. Musicalement, incontestées, incontestables. Mais dans l'actualité, tu sais, les histoires avec le Maori Chi, les histoires qu'on est plus, on est plus populaire que Jésus, Yoko Ono, le divorce de
John Lennon. C'était des bombes pour la vieille génération.
Il était dérangeant, puis il fatiguait le monde. Ça fait que dans ce contexte-là, tu te dis, OK, c'est un peu normal que Lindsay Hogg ait accouché de l'été de vie en 71 comme ça.
As-tu appris quelque chose?
Ah oui. Tellement, oui, c'est ça, que John Lennon était quelqu'un en studio qui était complètement dissipé. Ça prenait McCartney. McCartney peut bien passer pour une maîtresse d'école.
Il le dit à un moment donné, dit, je vais être désolé les gars, je suis obligé d'être le boss à l'écran, je suis filmé, je le sais, mais j'ai pas le choix, parce que si je vous le dis pas, on n'aura pas de 10
dans il rajoute aussi, et je suis tanné de faire la maîtresse d'école aussi. Si quelqu'un d'autre veut prendre le contrôle, allez-y, sentez-vous bien à l'aise.
Mais s'il est pas là, pas de 10.
Oh, no.
OK, petite pause. Au retour, on continue à parler des Beatles et de ce documentaire sur Disney+.
Plus.
Last night I said these words to my girl.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé, votre point de repère. I'd like to be underneath the sea.
Replace les gens dans le contexte, Sylvain. Donc ça, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est un extrait du documentaire là, Let It Be.
Get Back, sur
Disney+. Le but de ces séances-là, c'était de faire un album.
Oui, l'aboutissement, c'était de faire un album et un événement spécial télévisuel. Donc, à un moment donné, on parlait de faire cet événement-là, le spectacle dans un théâtre antique en Libye. Ensuite, sur un transatlantique. À un moment donné, on évoque même le projet de faire ça dans un orphelinat, dans un hôpital. C'est n'importe quoi. Et tu me demandais tantôt...
Trouver un bateau, il y a un genre... Trouver un bateau pour dans 12 jours.
Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est dans 12 jours. Effectivement, le deadline n'avait pas changé. C'était toujours objectif 12 jours.
Il
faudrait se louer un transatlantique. Puis là, t'as George qui dit, pendant deux semaines avec du monde, pas sûr... Puis là, donc, ce que j'allais te dire, mais ce que j'ai appris de ce documentaire-là, c'est de voir à quel point c'était le chaos total. Et même au niveau technique, ils arrivent, ils n'ont pas d'ampli, Puis là, t'as George Harrison qui dit...
Fournit la machine de George.
George fournit son enregistreuse, son 4-track le lendemain. Là, il dit, la première journée qu'il est là, on n'a pas de console. Non, les micros donnent des retours de son, des feedbacks, ils pognent des chocs dessus.
Alors c'est qu'il y a trois caméras de cinéma qui les filment. C'est ça qui est fascinant, avec le son et tout.
Ils se laissent filmer, puis tu parlais du chaos. Ouais. Moi, ce que tu sais, parce qu'on voit ce fameux concert qu'ils ont fait sur le toit de l'immeuble Apple. Et
qui est une solution de rechange.
Oui, c'est exact, mais en même temps, c'est une bonne idée. Ah oui. Mais quelques minutes avant, on voit, là, ils sont en train d'installer les 10 caméras sur l'immeuble d'en face, dans la rue. Et là, tu vois un super, ils filment une meuble, puis ils disent les Beatles sont présentement enfermés dans un local parce qu'ils ne sont pas encore certains de faire le concert sur le toit. La technique est toute posée, puis ils sont pas sûrs encore.
Mais ça, il y a quelque chose de fantastique là-dedans. George Martin est là en bas avec tous les fils qui se rendent jusqu'au sous-sol pour faire la prise de son. George Harrison qui dit, moi, ça me tente vraiment pas d'aller jouer dehors. Puis à un moment donné, c'est John Lennon qui... reprend son rôle de boss du groupe, parce que John Lennon, c'est à son groupe, les Beatles. Ouais. Ne l'oublions pas. John Lennon qui dit « Ah, oh, on y va. Bon.
Ça va être fait.
C'est ça. Ça va être fait, puis un coup passé, on va être débarrassé, ça va être correct. » Et ça finit par... ça donne un moment magique. Un moment qui est passé le soir, c'est le dernier spectacle du plus grand groupe de tous les temps.
Ils ont quand même copié U2 en allant sur un toit.
Non, mais c'est quand même pas rien.
C'est à souligner.
Cet événement-là, c'est quand même pas rien. C'est la dernière performance du plus grand groupe de tous les temps, ne serait-ce que pour ça.
Mais ce qu'on sent, c'est qu'ils étaient rendus au bout de la route.
Ah oui, c'était clairement.
Il n'y avait plus rien à tirer.
Clairement.
Ça.
D'ailleurs, ce qu'ils ont fait après, c'est l'album Abbey Road, qui était génial, sauf qu'en même temps, tout le monde a fait ses petits morceaux un peu partout en studio. Oui. Ils ont rassemblé ça, ils ont mixé les bandes, puis ils ont fait un album de génie.
Mais c'est fascinant aussi de voir devant Apple Corp, à un moment donné, ils filment parce qu'ils sont en train de changer du studio de cinéma, ils s'en vont dans le sous-sol de Apple.
Qui est mal équipé aussi.
Et oui, mais c'est que tu as deux fans devant l'immeuble, puis là, tu les vois tout arriver à pied, en char. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait des gens devant, tu sais, des fans, des Beatles qui attendent devant l'immeuble. Paul arrive à pied, puis il n'y a personne qui saute dessus. John Lennon arrive avec Yoko, il descend en bas. Les fans ne leur demandent même pas d'autographe.
Non, mais la Beatlemania, c'était quelque chose du passé. Et ça appartenait à un temps, les crises d'hystérie dans les spectacles, ces choses-là, ben, ils ne faisaient plus de spectacle depuis, comme je le disais tantôt, depuis déjà 2 ans. Non, mais ça, c'était une affaire de rien. À un moment donné, il y a un extrait où tu les entends faire rock'n'roll music en studio, et Peter Jackson met en surimpression la performance de rock'n'roll music à Tokyo, au Japon, en juillet 66, ce qui est 2 ans et demi avant. Tu as l'impression que pendant ces 2 ans et demi-là, les gars ont vieilli 10 ans. C'est bien troublant. Ils font la même chanson, tu regardes, Lennon pèse à peu près la moitié de ce qu'il pesait 2 ans et demi plus tôt.
Mais quand on parle de froid, là, parce qu'il jamme, et ce qui est fascinant, c'est que McCartney fait un petit bout de chanson et c'est écrit McCartney. C'est écrit seulement McCartney. Oui. C'est parce que lui, il l'a gardé pour lui, parce que tous les autres s'en sacquent quand il joue. Même chose pour Lennon. Et une toune de George Harrison. Ah, ils ne s'intéressent plus à ce que l'autre fait. T'sais, ils travaillent déjà sur leurs propres
affaires. Quand George Harrison fait All Things Must Pass, qui est une grande chanson, les autres ne le jouent quasiment pas.
Ça les intéresse pas.
Pas beaucoup avec. C'est, ce qui fait que oui, donc c'est un grand documentaire à cet égard-là. Ça te montre à quel point c'était des voix divergentes à ce moment-là, mais qui étaient encore capables d'être un band.
Mais ils restent amis ensemble.
Mais ils ont du. Oui.
T'sais, c'est ça qui est beau, quand même. Mais ils ne se chicanent pas. Mais ils
ont des désagréments, j'imagine, comme vous en avez dans la journée, parce qu'on devrait faire ça avant. Non, je ne suis pas d'accord. OK. Mais c'est ça, c'est beaucoup moins sombre que ce que l'époque nous appelait dans le temps en 71 quand c'est sorti. Où est-ce que là, le groupe venait de se séparer. Quand Let It Be est sorti, là, le groupe venait tout juste d'annoncer sa dissolution. L'ambiance n'était pas très bonne. Puis là, bon, on savait qu'il y avait des problèmes d'ordre technique et de gérance, puis tout ça. Là. Mais là, tout le monde a fait la paix.
Mais ça m'a réconcilié avec le fait, quand on disait les Beatles auraient dû continuer, ils ne pouvaient plus continuer. C'était fini.
Est-ce que tu aimerais voir les heures d'enregistrement qui n'ont pas été incluses dans le documentaire?
Non, j'en ai assez. J'en ai assez. Et j'ose présumer, comme il y a des sujets à un moment donné où on a l'impression d'être allé au bout, moi, j'ai l'impression d'être allé au bout de ce que je voulais savoir sur les Beatles.
Il y a une scène qui est fantastique. On entend Paul McCartney, il joue au Darling. Puis ils sont en train de démonter le studio.
Autour de lui.
Autour de lui. Puis
belle image.
Il s'écrit, fait un petit démo rapide avant de partir.
Puis il l'écoute même plus.
Non, mais il n'y a plus personne. Personne dans le
studio. C'est très beau. Puis ça, c'est la dernière chanson du documentaire. Et We Two of Us, tu vois Lennon, tu vois McCartney, puis t'as une petite arme à l'œil.
Et ça s'appelle Get Back. Merci Sylvain d'être venu nous en parler.
Toujours
c'est
un
disponible
plaisir,
à partir de ce soir en 3 segments sur Disney+, pour les fans des Beatles. On est tous un peu fans des Beatles.
Beaucoup.
Merci à vous trois. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Valérie s'en vient. Bonne soirée.